débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue. Actualité économique du jour. Dette, déficit. L'Élysée s'inquiète. On sent quand même un peu de fébrilité au sein de l'exécutif. Emmanuel Macron recevait hier les leaders de la majorité au sujet des finances publiques dégradées. Le déficit 2023, qui était attendu à 4,9%, sera largement supérieur à 5%. On s'attend à quelque chose de l'ordre de 5,6%. L'INSEE donnera le chiffre mardi prochain. Donc ça va mal. Ça donne lieu évidemment à des joute politique, Éric Ciotti, qui compare la France à la Grèce. Et il y a un think tank libéral espagnol qui, au regard de 5 critères très précis, place l'économie française en 21e position au sein de l'Europe des 27. Gabriel Attal se félicite des montants de la lutte contre la fraude fiscale et sociale. C'est vrai que ce sont des records pour les montants détectés. Mais pour les sommes vraiment qui rentrent dans les caisses de l'État, on se rend compte qu'avec ces deux fraudes réunies, on tend à plafonner entre 11 et 12 milliards d'euros. Non, ça n'est pas le magot, ça n'est pas la poule aux œufs d'or qui permettrait de financer n'importe quelle promesse politique, comme on l'entend si souvent lors des campagnes électorales. Il y a un vote au Sénat aujourd'hui, ça semble plier pour le libre-échange. Il devrait refuser de ratifier le CETA, qui fonctionne pourtant depuis 2017. Et puis on s'intéressera à la situation des PME-TPE, au regard de plusieurs études qui ont été menées par BPI France. Bonjour Christian Deboissieu.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes professeur à Paris 1 Panthéon-Sorbonne et vice-président du Cercle des économistes. On dit un mot des rencontres économiques d'Aix-en-Provence dans un instant. Nicolas Bouzou, bonjour.
Bonjour.
Fondateur du cabinet d'analyse économique et de conseil Asterès. Vous avez publié La civilisation de la peur, pourquoi et comment garder confiance dans l'avenir chez Ixo Éditions. On en dit un mot également dans un instant. Et Philippe Mutrici, bonjour.
Bonjour.
Il est directeur des études de BPI France et on parlera donc de ces deux études que vous m'avez signalées. Aix-en-Provence 2024. Je crois que c'est 5, 6, 7
juillet.
Voilà.
À quoi c'est encore plus important que d'habitude.
Ah.
Pour deux raisons. La première, c'est le sujet. C'est-à-dire qu'on a décidé d'avoir un titre, j'allais dire, affirmatif. Pas de point d'interrogation. Et le titre, c'est « Relier les mondes ». Dans un monde que vous connaissez aussi bien que moi, fracturé, fractionné, les guerres militaires, les guerres économiques, etc. Et donc, relier les mondes vers une réconciliation. Point. Pas de point d'interrogation. Donc c'est évidemment positif dans un contexte où il y a pas nécessairement tous les jours des informations positives. La deuxième raison.
Si, il y a Nicolas Bouzou qui a publié.
On fait le lien. La deuxième raison, c'est que encore plus que les années précédentes, on travaille avec les jeunes. Il y a 60 000 jeunes qui ont été consultés par le Cercle des économistes depuis 2 ans, par la plateforme. Et les jeunes vont être encore plus présents avec cette année. Pas pour des raisons démagogiques, c'est parce que, même si nous vieillissons, je veux dire, c'est pas une raison pour ne pas traiter les problèmes intergénérationnels et les questions d'avenir des jeunes et les questions de projet de ces jeunes-là. Voilà les deux axes que je retiens.
Bon, bien sûr, BFM Business sera présent comme tous les ans, car nous sommes partenaires de cet événement. La civilisation de la peur, pourquoi et comment garder confiance dans l'avenir chez Ixo Éditions. Sur BFM Business, on appelle ça la France à tout pour réussir, c'est ça, Nicolas Bouzou.
En fait, ce livre, c'est en partie quand même une critique des médias, c'est-à-dire que...
Ah bon ?
Ouais, absolument. C'est-à-dire que ça fait 20 ans que je suis dans les médias, donc j'ai pensé qu'étant devenu une sorte de rentier du sujet, je pouvais maintenant commencer à taper dessus sans prendre de risques excessifs.
Voilà. C'est ça. C'est l'histoire des trains qui n'arrivent pas à l'heure, les médias.
En réalité, quand vous regardez la conjonction de la production des médias et les interactions avec les réseaux sociaux, en réalité, tout ceci aboutit à une représentation du monde qui est plus négative que ce que le monde est réellement. Donc ça, c'est le premier sujet que je développe.
De même, d'ailleurs, que les réseaux sociaux, ça n'est pas la France et que c'est généralement beaucoup plus éruptif que d'aller le pays.
Et puis les préoccupations sont pas exactement les mêmes. Bon, ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, par rapport aux problèmes qui existent et qui sont très importants, les questions de réchauffement climatique, les questions d'inégalité, les questions de logement, les questions géopolitiques, qui sont des vrais problèmes. Mais je pense que nous sous-estimons notre capacité à répondre à ces problèmes. Et je vais vous prendre un exemple concret très rapidement. La question occidentale. Vous avez une très grande production littéraire sur le déclin de l'Occident. Mais il n'y a aucun déclin de l'Occident. Les problèmes démographiques de l'Occident, les pays non occidentaux connaissent les mêmes. La Russie a les mêmes problèmes, la Chine a les mêmes problèmes. Les questions économiques, La Chine aujourd'hui a des difficultés économiques dont elle n'arrive pas à sortir. Et même d'ailleurs, la Russie, je pourrais vous le démontrer, même si les chiffres de croissance ne sont pas mauvais, ou la Turquie, qui est en prise avec une hyperinflation dont ils n'arrivent pas à sortir. Et donc, ce que je veux montrer, c'est que par rapport à tout ce discours qui consiste à dire que c'était mieux avant, que tout est foutu, qu'on va vers un effondrement climatique, tout ceci est faux. Et ça n'est pas une question d'optimisme, ça n'est pas une question d'humeur, c'est faux parce que les chiffres nous disent autre chose, notamment, et je m'arrête là, sur la question environnementale, où les pays développés sont en train de faire des progrès extraordinaires. Vous avez vu, vous parliez de la France en 2023,
4,8.
Les émissions, c'est formidable, le Royaume-Uni...
Baisse des émissions, 4,8 en 2023 en France.
C'est formidable, on accélère, le Royaume-Uni, pour prendre cet exemple, en termes d'émissions de CO2, est un pays qui est aujourd'hui sur la trajectoire de la neutralité carbone en 2050. Donc ceux qui vous disent il faut faire la révolution, il faut changer de modèle, etc., on va dans le mur, c'est faux, nous allons dans la bonne direction. Voilà le message que je veux faire passer.
Oui. Donc on appelle ça, la France a tout pour réussir.
Non mais, je veux dire, la France, deux mots là-dessus.
Je défends le slogan parce que souvent j'ai des auditeurs qui me disent mais comment vous pouvez continuer à dire que la France a tout pour réussir, et là on va partir dans des chiffres noirs des comptes publics dans un instant.
Oui mais la France c'est un moteur à explosion, la France c'est pas le Danemark ou c'est pas les Pays-Bas, donc il y a des moments où ça va moins bien, mais la France c'est un pays qui se ressaisit tout le temps, on a vu ça historiquement, il n'y a pas de déclin de la France sur le long terme, il y a des périodes de déclin, et donc, il ne faut jamais désespérer de la France.
5,6% de déficit en 2023, on attendait 4,9. L'INSEE donne le chiffre définitif mardi prochain, Christian de Boissieu. 2 milliards de déficit en plus pour les comptes de la Sécurité sociale. Il manque 7,7 milliards de recettes fiscales en 2023. Réaction de Fitch et Moody's le 26 avril avec une dégradation probable, et puis Standard & Poor's se prononcera le 31 mai, une semaine avant les élections européennes. La dette nous coûte cette année 55 milliards d'euros. Elle coûtait 34 milliards d'euros en 2020. Elle coûtera 84 milliards d'euros en 2027 au train où vont les choses et sera de très très loin la première dépense de l'État. Est-ce qu'Éric Ciotti a raison ? Est-ce que la France, c'est la Grèce ?
Non, quand on regarde... Attendez, je réponds directement...
Excusez-moi de plomber un peu l'ambiance, Nicolas.
Le juge de paix de tout ça sont les taux d'intérêt.
Oui, oui.
Exigés par les marchés, par exemple, le taux à 10 ans. Aujourd'hui... la France paye 2,9% pour s'endetter à 10 ans.
On est à 50 points de base des Allemands, à peu près.
Bon, à peu près. Les Grecs, à 10 ans, c'est 3,60. Bon, alors, moi, je salue l'effort qui a été fait par la Grèce. Je ne suis pas en train de sous-estimer ce que la Grèce a subi de politique d'austérité.
Ça, c'est de l'austérité de la vraie, oui.
Ouais, chapeau. Bon. Je commence par dire chapeau. Mais aux yeux, en tout cas, de cet arbitre, ou de l'arbitre que sont les marchés, la Grèce, ça n'est pas la France. Je voudrais simplement dire que les chiffres que vous avez rappelés, évidemment, ce n'est pas une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que la trajectoire qui est prévue pour aller vers 3% en 2027, qui est l'engagement de M. Macron et de son gouvernement, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Deuxième remarque.
C'est aimable de dire compliqué.
Oui. Non, mais moi, je... Voilà.
Mais allez-y.
Je ne suis pas obligé. J'ai le droit de parler français encore.
Oui, bien sûr.
Deuxième remarque. Ça va être aussi compliqué de financer tout ce qu'il faut financer. Je veux dire, il faut financer quoi ? La défense et la sécurité. Pas besoin de faire disons, d'image. Deuxièmement... Il faut qu'on finance, en partie par les budgets publics, la transition énergétique et écologique. Il faut qu'on finance l'éducation, la santé. C'est la quadrature du cercle. Alors, tout ça, comment est-ce qu'on s'y prend ? Je veux dire, quand M. Le Maire, il y a quelques mois, a annoncé une revue des dépenses publiques, bon, on ne peut être que d'accord. Simplement, j'ai rappelé, y compris autour de cette table, et à votre antenne, que ça fait 20 ans qu'on lance... des plans de revue des dépenses publiques. Oh, ça avait commencé avec la LOLF, la loi organique sur les lois de finances, la RGPP, la Revue Générale des Politiques Publiques, la MAP, la modélisation de l'action publique.
Sous François Hollande.
Le rapport sous...
Le cap 2022.
Qui n'a jamais été publié ou qui a été publié par Manteau. C'est, je veux dire, on tourne autour du pot sur le thème de l'efficacité des dépenses publiques, et je pense qu'il faut tirer la sonnette d'alarme.
C'est ce qu'on est en train de faire, visiblement.
Non, mais j'attends des actes, pas des paroles. Excusez-moi de le dire. Bon, et je veux dire, nous sommes dans ce contexte-là, très compliqué, et il faut... Alors, vous aviez l'air de dire que la dégradation de la France, c'est quasiment certain, on verra au mois de fin avril.
Je pense que ça ne changera rien.
Non, ça ne changera pas.
Objectivement, on ne verra pas les taux s'envoler.
Il y aura un effet d'annonce, oui, si c'est le cas. Si les trois grandes agences de rating, ou moins deux parmi les trois, dégradent, il y aura un effet d'annonce qui ne sera pas très bon pour nous et qui servira, à mon avis, cet effet d'annonce aussi de force de rappel. Mais je veux dire, les chiffres que vous avez rappelés, qui ne sont pas bons pour 2023, 5,6% au lieu de 4,9%, ça veut dire qu'en 2024, on ne fera pas du 4,4% de déficit public, on sera au-dessus. Tout ça n'est pas bon et ça appelle un sursaut à la fois économique et, j'allais dire, politique.
Et bien justement, là, il y a ce livre aux allures de programme de Bruno Le Maire, et paraît-il, d'après le canard enchaîné qu'Emmanuel Macron a dit à propos de ce livre, qui justement appelle à un sursaut. Tiens, il devrait en parler au ministre de l'économie. C'est ironique, mais bon, je l'ai entendu ça, hein, depuis 2-3 jours, depuis l'annonce de l'apparition de la voix française, que n'a-t-il fait depuis 2017 ? Allez-y, Philippe Mutrici, oui, par rapport à la situation qu'on évoque.
Quelques mots rapides, alors évidemment, non. On n'est pas dans
non
la
quoi ?
On n'est pas dans la situation de la Grèce. Ça n'a rien à voir. Enfin, essayons d'être un petit peu rationnel dans ce débat.
Il fait un peu de politique, Éric Ciotti.
Oui, mais enfin, écoutez, je commenterai pas les propos politiques, mais en tout cas, comparer la situation de la Grèce à la situation de la France, que ce soit en 2012 ou maintenant, la taille du PIB n'est pas la même, la capacité à lever l'impôt n'est pas la même. C'était la grande difficulté de la Grèce à l'époque.
Et puis elle avait menti sur ses comptes publics.
Voilà. C'est pas la situation de la Grèce. Mais pour autant, ce qui est en train de se passer, c'est important. C'est-à-dire qu'on est en train de sortir de la parenthèse enchantée du quoi qu'il en coûte. Donc on a eu 3 ans pendant lesquels la Commission européenne a suspendu tous les mécanismes de contrôle des déficits. Et en fait, qu'est-ce qui vient de changer récemment ?
Le nouveau pacte de stabilité.
Ils ont été restaurés. Donc il est fort probable qu'on se retrouve en procédure pour déficit excessif l'année prochaine.
C'est déjà arrivé, ça n'a eu aucun effet. Voilà.
Bien sûr, mais ça remet le sujet...
C'est encore des histoires, des affichages, on ne les respecte pas.
Ça met quand même une forme de pression.
Oui.
Et ça remet le sujet donc au bout du jour. Donc ça, c'est le premier changement récent. Le deuxième, même si Christian de Boissieu l'a dit, c'est les taux d'intérêt. Donc c'est vrai qu'ils ne sont pas à un niveau très élevé, mais l'État n'emprunte plus à taux négatif. Et donc, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, ça se voit dans la charge de la dette.
Ah ben oui.
Ça va se voir assez rapidement, d'ailleurs, compte tenu de la masse de la dette. Donc ça, c'est le deuxième changement important. Et puis, le troisième, c'est la conjoncture. Qu'est-ce qui provoque aujourd'hui ce débat ? C'est que la croissance 2023 a été moins bonne que prévu, donc les recettes fiscales moins bonnes. On est sur un début 2024 qui est très proche de zéro. 0,1, 0,2 en croissance trimestrielle, 0,2 au mieux sur ce début d'année. Et on a un système de prélèvement fiscal et social qui est très sensible à la conjoncture. Et donc, effectivement, le déficit 2023 va déraper de 0,7 points de PIB très probablement. Moi, ma crainte dans tout ça, c'est le risque... Enfin, c'est le risque de tirer des mauvaises dispositions, des mauvaises solutions.
Des mauvaises solutions.
La mauvaise solution, ça consisterait à tailler dans les dépenses qui soutiennent la croissance. Moi, je pense par exemple à ces pauvres impôts de production qui existent toujours en France et qui sont toujours supérieurs à la moyenne de l'économie européenne.
Il faut continuer à les baisser. Oui.
Il faut continuer à les baisser. Pourquoi ? Parce que si on veut rétablir un équilibre budgétaire, il y a deux méthodes. Il y a taper dans les dépenses, bien sûr, mais il y a aussi augmenter la valeur ajoutée.
J'entends.
Et pour augmenter la valeur ajoutée, il faut garder les bonnes dépenses, celles qui contribuent à la croissance.
J'entends, et c'est ce que la CPME disait, il faut absolument maintenir la politique de l'offre. Bon, Nicolas, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, moi j'ai l'impression que la situation est plus... Enfin, que l'anxiété est plus forte que d'habitude.
Ouais.
J'ai rarement vu l'exécutif se mobiliser pour aller chercher des milliards aussi vite. 10 milliards par décret, ça s'était jamais vu. Et là, vraiment, on commence à aller chercher des montants importants quand on annonce 20 milliards pour 2025. Si on veut continuer à baisser les impôts de production, faire cette promesse de 2 milliards d'impôts en moins pour les classes moyennes. Moi, je vous ai fait la liste dans le programme du jour sur qui il faut taper. Parce qu'il faut taper sur quelqu'un. Qu'est-ce qu'on va faire ?
Alors, déjà, j'ai un petit désaccord avec le gouvernement qui veut cibler en priorité les dépenses sociales par rapport à l'État. Ça a été dit par Bruno Le Maire.
Les dépenses d'État, c'est les 10 milliards, là.
Alors, c'est les 10 milliards. Si on regarde les choses très attentivement, c'est plutôt 4-5 milliards que 10 milliards, en réalité, parce que dans les 10 milliards qui ont été annoncés, il y a des opérations budgétaires qui devaient, par exemple, le ministère de la Recherche devait acheter des bâtiments, ils le feront pas. Il y a aussi, vous savez, tous les systèmes de crédit d'impôt, c'est-à-dire que les ministères mettent de l'argent en réserve en cas de coup dur, et ces réserves vont être diminuées, etc.
Donc, c'est la poire pour la soif s'il y a un truc.
Très honnêtement, c'est un peu plus de l'ajustement comptable, on va dire.
Il y a de l'ajustement comptable.
Que de la baisse de dépenses, à peu près la moitié. Mais je voudrais vous dire quelque chose qui me semble important. Le déficit de l'État, donc là je ne parle pas de la sécurité sociale ni des collectivités locales.
C'est important de rappeler que l'État, c'est une des trois fonctions publiques.
Voilà, alors les collectivités locales, de toute façon, il n'y a pas de déficit, puisque personne ne le sait, mais je rappelle que c'est interdit.
Il est dans la loi.
Donc elles s'endettent pour financer les investissements, bien évidemment, mais sur le reste, c'est impossible de voter un budget en déficit. Absolument. Donc on oublie pour l'instant les collectivités locales. La question de la sécurité sociale, mais l'État, en 2023, c'est 170 milliards d'euros de déficit pour des dépenses de 455 milliards d'euros. Donc déjà, ça veut dire que vous avez, si je compte bien, quasiment 40% des dépenses qui sont financées à crédit. Parce qu'on dit toujours 5% du PIB, le déficit, ouais, ouais. Mais tu sais, ça ne veut rien dire. C'est pas,
on beaucoup mieux le regarder.
On le regarde là. Donc, déjà, vous voyez que les chiffres sont massifs. C'est très important. Mais la deuxième chose, c'est que si vous regardez l'évolution du déficit de l'État depuis 2020, et je prends l'année 2020 à dessein, puisque c'était l'année du Covid, vous apercevez qu'en réalité, on est quasiment toujours au même niveau de déficit, à 10 milliards d'euros près. Ça veut dire que nous ne sommes jamais sortis du quoi qu'il en coûte. C'est ça ce que ça veut dire. Nous n'en
Nicolas,
sommes pas sortis.
On l'a bien arrêté, le bouclier sur le gaz. On a bien réduit le bouclier sur l'électricité. On a bien cessé de donner 20 centimes par litre d'essence.
Très récemment, oui, mais ça, on l'a fait récemment. Les aides face au choc énergétique, la Cour des comptes nous dit, grosso modo, tout ça a coûté 80 milliards d'euros. Donc ce sont des dépenses qui sont absolument considérable. Et donc, pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc, la première chose, c'est qu'il faut, pardonnez-moi pour le néologisme, mais dès quoi qu'il en coûtiser l'économie française.
Dès quoi qu'il en coûtise.
Alors, la dès quoi qu'il en coûtisation.
Le mot le plus long de la française.
Très concrètement.
J'arrive pas à le répéter.
Très concrètement. Ça veut dire que si demain on a à nouveau un choc exogène du type, justement, énergie, etc., pour le coup, on est obligé de l'absorber par les marges d'entreprise de pouvoir d'achat des ménages.
Cette fois-ci, il faudra le payer.
Voilà, donc ça, c'est la première. Et d'ailleurs, je trouve que le gouvernement, me semble-t-il, pourrait faire cette pédagogie et le dire clairement. Enfin, je veux dire, c'est pas honteux de dire ça. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a un sujet dont on parle encore depuis 20 ans sur votre antenne, mais qu'on n'a jamais vraiment regardé en face, qui est celui de la réorganisation de l'État et de la sphère publique. Alors, qui n'est pas un sujet qui va faire des économies en 2024 ni en 2025, bien évidemment. Mais tant qu'on n'aura pas regardé ce sujet, et c'est des choses très concrètes, tant qu'on ne se sera pas dit, au ministère de la Santé, on a fait les ARS en région, mais en faisant les ARS, on n'a pas restructuré le ministère de la Santé, avenue de Ségur. Et tant qu'on ne se posera pas ce genre de questions, bah du coup, on sera obligé de faire le rabot. Parce que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est très exactement ce que le président de la République avait dit. Enfin, il nous avait dit qu'il y mettrait fin dès 2017. C'est-à-dire que c'est la stratégie du rabot.
Est-ce que là-dessus...
Alors, allez-y, Christian
Debout. Je rappelle quand même que la commission Attali, dont j'étais membre avec beaucoup d'autres gens d'ailleurs...
Ah, c'est vrai que vous étiez membre de la commission.
En 2007, avait ouvert ce débat.
Bien sûr.
Alors, c'était...
Mais le rapport Armand-Rueff l'avait ouvert aussi.
En 1958, le rapport Armand-Rueff 58-59 l'avait ouvert. Simplement, je reviens sur la commission Attali. Il y avait des propositions de réorganisation de l'État. En liaison d'ailleurs avec les collectivités territoriales, on essayait, il faut supprimer un échelon, etc. Mais ça allait plus loin que les problèmes d'échelon. Et quand je disais tout à l'heure, ça fait 20 ans qu'on lance des commissions qui débouchent sur des rapports, qui débouchent sur pas grand-chose, on est quand même là-dedans. Parce que derrière la réorganisation, il y a le thème de l'efficacité. Et je pense qu'il y a deux sujets derrière le problème de la réorganisation de l'État. Il y a la volonté politique, là ou pas là, et puis il y a la bonne méthode. Ouais. Je pense qu'on pêche des deux côtés. Il y a une insuffisance de volonté politique pour des tas de raisons sur lesquelles je vais parvenir. Et c'est compliqué, je me souviens avoir travaillé sur l'efficacité des dépenses de défense. C'était avant les événements récents. Vous prenez le ministère des Armées ou de la Défense, il a changé de nom au cours du temps. Aborder le problème de l'efficacité des dépenses de défense, c'est très important. Et c'est très compliqué. Bon, donc, moi, je jette pas la pierre. Je dis simplement, je suis un peu énervé de cet écart entre une volonté affichée permanente de réorganiser l'État, d'améliorer l'efficacité des dépenses publiques.
Et de ne pas y parvenir.
Et la faible culture derrière tout ça. J'ajoute pour terminer, parce qu'il y a un autre point dont on n'a pas parlé qui me paraît important.
Alors, parce qu'on marque une pause.
Bon, ces chiffres français ne sont pas bons. Ce qui nous aide un peu en ce moment, c'est que les Allemands ont leurs problèmes budgétaires. Ah, oui. Alors, je m'en réjouis pas. Alors, ils ont certes un ratio de dette publique qui est bien inférieur au nôtre, mais quand vous regardez le débat sur le déficit public, la question de savoir ce qu'on met dedans, ce qu'on met pas dedans, après la décision de la Cour de Karlsruhe, vous avez un vrai sujet budgétaire en Allemagne qui nous... j'allais dire qui nous aide un peu, c'est pas ça qui règle les problèmes franco-français, mais je veux dire
ça détourne un peu l'attention.
Il y a toujours des comparaisons relatives. Il y a le relatif, il y a pas que l'absolu dans tout ça.
On marque une pause. On pourra peut-être encore en dire un mot parce que là, c'est bien pourtant la dépense sociale, hein, Nicolas, qui est quand même dans le viseur très clairement. Ça s'appelle retraite, assurance chômage, la dépense sociale, remboursement des affections longue durée, remboursement des arrêts maladie dans la fonction publique. Allez, chaque fois qu'il y aura une décision autour de ces événements-là, il y aura quelqu'un qui paiera. C'est absolument certain. On évoquera la lutte contre la fraude fiscale et sociale. Faut pas quand même en attendre des miracles, même si les chiffres sont bons et si des efforts sont faits. À tout de suite.
Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Christian Deboissieu, professeur à Paris 1 Panthéon-Sorbonne et vice-président du Cercle des économistes, partenaire de cette émission chaque jeudi. Nicolas Bouzoul, fondateur du cabinet Asterès, qui vient de publier La civilisation de la peur, pourquoi et comment garder confiance dans l'avenir chez XO Éditions. Philippe Mutrici, directeur des études de BPI France. Un peu de concret là, Nicolas, sur ce qui pourrait se passer, parce que la réforme de l'État et son efficacité, comme on l'a dit, d'abord il faut l'engager, et puis ça prend du temps pour produire des effets. Là, il est un peu mini moins 5 quand même, dans ce qu'on est en train de vivre. Donc, je retouche à l'assurance chômage pour la troisième fois en 4 ans, 3 ans. Je dis aux retraités, je suis désolé, vous n'allez pas être aussi bien indexé que prévu. Les ALD, désolé, on ne peut plus continuer à prendre en charge intégralement les affections longue durée. Cher taxi, votre rente sur le transport sanitaire, c'est fini. Ou alors, dans la fonction publique, non, là, il y a vraiment trop d'absentéisme. Maintenant, les arrêts maladie, on va serrer la vis. C'est ça, hein, la liste approximatif de ce qui est un peu dans les esprits et de ce qu'on retrouve dans le bouquin de Bruno Le Maire d'ailleurs.
Non, mais il y a des choses là-dedans qui se défendent, je trouve. Hein. Par exemple, sur le chômage, alors il y a un débat entre Matignon et Bercy pour savoir si on joue sur le niveau de l'indemnisation, ce qui est plutôt l'idée de Matignon, ou sur la durée de l'indemnisation, ce qui est plutôt l'idée de Bercy. Elle a déjà été un peu raccourcie, la durée d'indemnisation, mais c'est vrai qu'elle est encore relativement longue, donc on peut jouer là-dessus, mais les effets seront quand même relativement marginaux. Puis je trouve qu'il y a des trucs qui sont carrément mesquins. Alors moi, je suis super rigoureux en matière de dépenses publiques, je suis libéral, etc. Mais ouais, sauf que les frais de transport hospitaliers, j'entends bien votre argument sur la rente des taxis, mais aujourd'hui, je trouve que vu les cotisations salariales que payent nos concitoyens, le fait que quand ils vont faire leur chimiothérapie, ils puissent y aller en taxi, je trouve ça très bien. Je trouve ça normal et je trouve très mesquin de jouer là-dessus parce que ce que va demander le gouvernement, c'est grosso modo du covoiturage. Si demain je devais aller me faire opérer, même pour un truc pas grave, mais ou si je devais aller faire une radiothérapie, je suis pas sûr que je serais super content à l'idée de
partager la voiture.
Mais je crois que ce que je dis est complètement universel. Ouais. Donc je pense que c'est quand même assez pénible et donc je reviens à cette idée tout à l'heure. Ce qui est très pénible, c'est la crédibilité de la parole publique, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas de dire. Et vous pouvez reprendre des déclarations des uns des autres. Le rabot, c'est la fin. J'ai tort ou pas?
Non, mais je sais. Mais
et puis c'est toujours le rabot qui revient, quoi. Donc au bout d'un moment, c'est pénible.
Les discours dans les mots sont toujours généralement très clairvoyants, mais dans les faits, il se passe pas grand chose. Je fais toujours référence à cette scène qui m'a amusé dans le fameux docu là sur la dette des contribuables et associés. Il y a juste le début, moi, qui m'a amusé. Vous voyez la dette qui monte depuis des années, et à chaque fois qu'elle monte, vous voyez le responsable politique du moment qui à chaque fois vous dit avec moi, c'est fini. Bon, il y a un moment, avec lui, c'est pas fini, pas plus qu'avec les autres, et c'est pas... Bon. Christian Deboissieu, après on avance, parce que...
Nous sommes bien d'accord sur le fait que le social doit pas encaisser 100% de l'ajustement. Hein. Je suis désolé. Pour moi, la question centrale, qui est une question de politique économique et de politique tout court, c'est comment on ventile les efforts à faire entre le social et le reste.
Eh bien, on vous dira, Christian, que la dépense d'État des administrations n'est pas plus élevée en France que dans les autres pays, et que la différence se fait sur la dépense sociale.
Bon, et je voudrais faire une remarque sur l'assurance chômage. Parce que même si je vois bien l'évolution sans doute nécessaire, je pense que ça n'est pas en période de hausse du chômage qu'on resserre les boulons sur l'assurance chômage. Or, nous sommes dans un contexte où depuis quelques mois, le chômage augmente. Il va continuer à augmenter. On va être à 7,6% de chômeurs au mois de juin 2024. Et la Banque de France vous dit que ça va continuer. Donc, je trouve que l'effet signal est pas bon. Quand on pose un certain nombre de principes, d'abord, et je termine sur l'assurance chômage, parce que pour moi, c'est un exemple caractéristique, j'allais dire, il faut pas se bousculer pour faire les réformes. Il y a le feu dans la maison, vous l'avez dit, Nicolas. En même temps, faire une troisième réforme de l'assurance chômage sans avoir évalué les effets des deux premières, ça me paraît de mauvaise politique. Ça rejoint le débat sur l'absence de culture, l'insuffisance de culture d'évaluation des politiques publiques en France.
La fraude fiscale et sociale, qui est intéressé par le sujet ?
La fraude fiscale, en fait, parce que
Gabriel Attal,
Nicolas, j'ai l'impression que vous avez tout dit.
mais Gabriel Attal nous dit c'est merveilleux. Regardez 15 milliards d'euros sur la fraude fiscale.
Bon, on a besoin de cette rentrée d'argent.
Oui, mais c'est pas de l'argent qui est rentré, c'est de l'argent identifié. On a fait rentrer 10 milliards 6 comme en 2022. Philippe, est toujours là à nous dire ah l'argent de la fraude fiscale et sociale, c'est le Graal que l'on va aller chercher.
Bien sûr que c'est important de lutter contre la fraude fiscale et sociale. Mais on va pas trouver les 70 milliards. Milliards de recettes qui vont payer la charge d'intérêt de la dette. C'est pas là qu'on va les trouver.
Juste une remarque. Oui, donc déjà, on fait déjà énormément en matière de lutte contre la fraude fiscale et sociale en France. Ça date, en fait, je me souviens très bien de ces évolutions, ça date vraiment de 2008. C'est-à-dire que c'est à partir du moment, donc la crise de 2008, après la crise, on a commencé à se poser sérieusement justement des questions de réduction des déficits publics, notamment François Hollande, quand il a été élu en 2012. La lutte contre la fraude a été considérablement renforcée avec beaucoup de résultats. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, lutter contre la fraude, c'est forcément bien, hein, mais ça se fait à des coûts qui sont toujours plus importants pour des recettes marginales qui sont toujours plus faibles. Alors, donc il faut le faire, mais il faut pas en effet en attendre. Il y a rien de caché, si vous voulez.
Non, mais
et le taux de recouvrement, juste dernier mot, des recettes fiscales en France doit être, de mémoire, l'un des plus élevés au monde. On doit être à 98 ou 99%, quelque chose.
C'est tout à fait ça. Mais je dis ça parce que régulièrement, quand il y a des élections, vous avez des partis qui sortent des programmes hors de prix et on leur pose la question mais comment financez-vous ? Et la réponse, c'est toujours j'irai chercher l'argent de la fraude. Et l'argent de la fraude, comme dit Philippe, ce ne sera pas 70 ou 80 milliards d'euros. On fera des progrès. La technologie permet de faire des progrès. Regardez, on a identifié 140 000 piscines.
C'est rigolo.
140 000 piscines grâce à des moyens technologiques qui n'avaient pas été déclarés en 2023. Ça fait 40 millions d'euros qui sont passés à l'as de la taxe foncière.
On les a identifiés. Et on ne va pas en identifier 140 000 par an non plus.
Non, voilà, exactement. Et puis, on s'est rendu compte avec Emmanuel Le Chip que, comme par hasard d'ailleurs, les ventes de bâches camouflées ont progressé. Il y a certains qui s'achètent la bâche camouflée pour mettre sur la piscine pour éviter que le... libre-échange. Allez, Christian de Boissieu. Naturellement, intuitivement, on se dit probablement qu'une bonne partie de l'opinion est pour le protectionnisme et contre le libre-échange, et dans une sorte de réflexe un petit peu pavlovien, probablement que le Sénat va voter contre le CETA.
Mais c'est la suite du débat posé par la révolte des agriculteurs. Hein, je veux dire, très clairement, c'est une concession qui est faite. Moi, ce qui m'a étonné dans cette affaire, parce que j'ai pas conscience du fait que le CETA, donc qui a été négocié en 2017, si mes souvenirs sont exacts, entré en vigueur.
Oui, sur le terrain commercial, il est en vigueur.
C'est assez étonnant qu'on pose un problème de ratification de quelque chose qui est déjà effectif.
Il y a deux éléments qu'il faut ratifier. La protection des investissements des entreprises et la création d'une justice arbitrale. Oui. Voilà.
Et quand je regarde, alors, deuxième remarque, quand on regarde les conséquences de ce qui se passe depuis 2017, dans cet accord entre l'Union européenne et le Canada, c'est globalement plutôt positif pour nous, Européens, et en particulier sur la filière agricole, agroalimentaire, qui était justement concernée par les événements récents. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un peu de contre-emploi dans tout ça, ou de contre-temps. Et donc, mais je répète, c'est le signal qui est donné à l'opinion publique, comme quoi l'Europe n'est pas une passoire, qu'on va appliquer les clauses miroirs, qu'on arrête d'être naïf, etc. Donc, c'est la dimension politique, c'est l'effet d'annonce, à nouveau, de tout ça.
Le libre-échange, Philippe Mutrici, vous êtes libre-échangiste ou protectionniste ? Vous avez le droit de me dire protectionniste, même si la plupart des gens qui viennent dans cette émission sont plutôt favorables au libre-échange.
Je vais vous répondre libre-échangiste, Mais libre-échangiste, ça ne veut pas dire qu'on fait tout, n'importe comment, n'importe quoi. S'il y avait Jean-Marc Daniel sur ce plateau, il me prendrait pour un protectionniste. Qu'est-ce que je veux dire par là ?
Non, mais je vois ce que vous voulez dire.
Qu'est-ce que je veux dire par là ? Ça veut dire que le libre-échange, c'est important, ça marche quand c'est bien fait, et c'est bien fait quand c'est réciproque. C'est le principe, hein, c'est on va prendre, il y a plusieurs choses dans la politique commerciale. On va pas faire un cours de politique commerciale, mais il y a les tarifs, il y a les quotas, et puis il y a diverses restrictions d'accès au marché qui peuvent être réglementaires. Et en l'occurrence pour les agriculteurs, c'est toutes les questions de sanitaires. C'est-à-dire est-ce qu'on utilise des pesticides ou pas pour des antibiotiques pour les poulets, des pesticides pour le blé, etc. Et donc dans ces trois dimensions, en fait, c'est des curseurs qui vont varier. Mais le plus important, c'est pas tellement que les droits de douane soient à 20% ou 15% ou 10%. Plus ils sont bas, plus ça marche. Ce qu'il faut surtout, c'est que ce soit réciproque. Et donc, quand nous, on constate que la taxation sur les véhicules européens vendus en Chine n'est pas la même que la taxation des véhicules chinois vendus en France, on dit que ça ne va pas. Alors, est-ce qu'il faut augmenter les droits de douane ou demander aux Chinois de les baisser ? Si on augmente les droits de douane, Jean-Marc Daniel va dire « Bah oui, vous êtes protectionniste ». Non, on est libre-échangiste. Simplement, on voudrait que ces règles soient bien appliquées et qu'elles soient réciproques.
Moi, je voudrais rajouter, juste un mot là-dessus, parce que je suis pour le libre-échange, mais avec des règles du jeu respectées. Le problème aujourd'hui, c'est que l'Organisation mondiale du commerce est totalement absente.
Bien sûr.
Je veux dire, et dans à l'OMC, donc à Genève, il y avait, dans le temps, il y avait l'organe de règlement des différends, c'est-à-dire l'antenne efficace de l'OMC.
L'ORD, aujourd'hui, oui.
Complètement paralysé. Les Américains, démocrates, républicains, démocrates, n'ont refuse, ça a commencé avec Obama et ça a continué avec la suite,
de désigner leur juge.
C'est complètement bloqué.
Oui,
donc il n'y a pas d'arbitre dans le système.
Et d'ailleurs, j'ai oublié les aides d'État, qui normalement étaient surveillées par l'OMC.
Vous avez vu, 20 milliards d'aides fédérales pour Intel. Au moins, ils ne s'embarrassent pas, les Américains. On veut qu'Intel cartonne, produit sur le sol américain, devienne un mastodonte déjà qu'il est dans les semi-conducteurs. 20 milliards. Tranquille. La position. Alors effectivement, si Jean-Marc Daniel était là, il dirait que vous êtes un protectionniste.
Oui, en fait, il faut que ça soit réciproque, juste, et que les règles soient appliquées.
Là, depuis hier, avec ces histoires de CETA et de libre-échange, je vois les réactions des gens. Vous êtes complètement hors sol à Paris. Allez voir ce que vivent les agriculteurs. Comment vous pouvez défendre le libre-échange? Évidemment, il faut se protéger. Et je comprends la position des gens qui vont dire « Ouais, ça c'est des débats d'experts économistes, mais allez voir la réalité sur le terrain. Comment voulez-vous que je fasse, moi, qui vends tel ou tel produit face aux concurrents ?»
On a rappelé les chiffres du CETA tout à l'heure.
Oui, mais ça c'est pas le libre-échange parfait. Ça c'est du libre-échange qui fonctionne mal.
Oui, mais alors en l'occurrence...
Parce qu'il n'est pas réciproque.
Ceux qui dénoncent ce qui ne fonctionne pas, ils l'observent et ils le constatent, et c'est la vérité. C'est dur à arbitrer, Nicolas Bouzou, ces
histoires. Moi, je pense que le Sénat est en train de commettre un contresens économique, parce que quand vous regardez la structure du commerce international de l'agriculture française, en fait, vous voyez, contre toute attente, que nous réussissons plutôt vers les destinations lointaines et que nous perdons des parts de marché à l'intérieur de l'Europe, en réalité. C'est-à-dire que les difficultés de la filière agroalimentaire, d'ailleurs de l'agriculture et du reste, aujourd'hui, ça vient de la compétition avec l'Allemagne, de la compétition avec les Pays-Bas, de la compétition pour l'essentiel avec les pays européens. Mais le CETA, Christian de Voissieu l'a rappelé tout à l'heure, maintenant on a suffisamment de recul, on sait que ça a plutôt bénéficié à l'agriculture française. Et donc, le sujet est beaucoup moins un sujet d'accord de libre-échange, dont je rappelle d'ailleurs qu'un accord de libre-échange, parce que là encore, il faut être concret, il faut voir ce que c'est concrètement. Parce que les gens pensent qu'un accord de libre-échange, ça veut dire que tout est permis. Accord de libre-échange, c'est quelque chose qui fait 1500 pages, qui est illisible uniquement par des juristes ultra spécialisés qui consacrent leur vie à ça. Donc, un accord de libre-échange, en réalité, c'est un accord d'hyper-régulation dans les faits, si vous regardez les choses.
Ça détermine des quotas sur lesquels il y aura des
et donc le sujet de l'agriculture, pardon, c'est pas le CETA, c'est le fait que la France surtranspose les directives européennes et que du coup, on utilise par exemple, et ça aussi c'est très concret, on utilise beaucoup moins de principes actifs, ça veut dire les engrais, les pesticides, que l'Allemagne ou que les Pays-Bas, et qu'on a un coût du travail, parce que ça on ne le dit jamais, plus élevé. À voir d'ailleurs avec l'assurance chômage, parce que moi je reparle aux agriculteurs et ils me parlent. Vous savez ce qu'ils me disent ? Ils me disent, mais nous on trouve personne pour travailler. Les travailleurs saisonniers, on n'en trouve pas. Parce que tout le monde nous dit, non, c'est pas assez rentable de venir travailler dans les vignes.
Ils ne sont pas les seuls à avoir des vignes.
Oui, mais bien sûr. Mais eux en ont. Enfin, je veux dire, c'est vraiment quelque chose qui revient. Donc vous voyez, c'est concret, mais pardon de le dire, le CETA, c'est pas du tout la cause des difficultés de l'agriculture française. Mais Christian de Boissieu a raison, c'est perçu comme ça par contre.
Ils craignent davantage
partage l'Amérique latine, qui est quand même un mastodonte agricole, plus que le Canada.
C'est pas prêt d'entrer en œuvre.
Mais le Mercosur, je vous rappelle que ça fait 20 ans que c'est en discussion, donc on va en parler pendant 20 ans.
Voilà.
BPI a mené quand même des études régulièrement. Vous êtes venu avec deux éléments du jour concernant les TPE-PME, Philippe Mutrici. Alors la première, vous allez me dire de quoi il s'agit. Vous avez réagi à ce débat ouvert par Gabriel Attal sur la désmicardisation et la trappe à bas salaire, et vous êtes concentré sur la question des TPE-PME.
Oui, la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que ce débat concerne les TPE-PME et dans quelle proportion ? On a été très surpris du résultat. Donc la smicardisation, juste pour pas rappeler sur ce plateau, mais très rapidement.
Si, allez-y, il faut toujours.
C'est la conséquence de 17 hausses du SMIC consécutives. Donc en fait, on n'est plus dans le débat finances publiques lié à la conjoncture, on est là dans le débat conséquence de l'inflation. À cause de l'inflation qui s'est envolée pendant 2 ans, le SMIC a été réévalué 17 fois. Donc ça, le phénomène de smicardisation, c'est-à-dire que le SMIC, lui, il est indexé sur l'inflation dont il augmente, mais les salaires qui sont proches du SMIC, en fait, se font rattraper par le niveau du SMIC.
Les gens qui étaient à 1,1, ils deviennent smicards.
Voilà, c'est ça. Et donc, combien de PME sont concernés ? TPE, PME, à partir de 1 salarié jusqu'à 250 salariés, 1 500 000 entreprises en France, vous en avez 50% qui sont concernés par ce sujet.
50% ont été touchés par cette...
C'est-à-dire que dans leur entreprise, il y avait des salaires proches du SMIC, qui se sont fait rattraper par le SMIC. Donc ça, c'est le premier résultat qui est assez frappant. Et on voit qu'elles ont du mal à faire face, puisqu'il faut augmenter les salaires proches du SMIC, voire toute la grille des salaires. Et sur cette moitié concernée, il n'y en a qu'un tiers qui a pu le faire en 2023. Donc vous en avez 2/3 qui n'ont pas pu procéder à ces réajustements. Après, je ne vais pas vous détailler tous les chiffres qui sont derrière, mais on a creusé assez profond tous ces axes. C'est-à-dire qu'il y a un vrai sujet aujourd'hui de rattrapage des bas salaires dans les PME-TPE par le SMIC.
Est-ce que, allez-y, Christian de Boissieu, parce que sur ce sujet, les constats sont terribles, mais les solutions sont ultra complexes. Non,
effectivement, ça relève de la politique salariale dans l'entreprise, des négociations dans l'entreprise, et vous avez raison de rappeler, j'allais dire indirectement, que beaucoup de PME, TPE ont des problèmes de trésorerie aujourd'hui. Et moi, ce qui me frappe, c'est que quand on regarde ce qui se passe devant les tribunaux de commerce, vous avez quand même aujourd'hui... J'allais dire, malheureusement, ils ont beaucoup de boulot. Il y a un effet de rattrapage, parce qu'effectivement, pendant les deux années terribles du Covid, 20-21, le quoi qu'il en coûte a permis de gagner du temps. On a acheté du temps avec le quoi qu'il en coûte. Aujourd'hui, ça se rattrape. Et donc, ce qui m'intéresserait de voir, peut-être pour prolonger ce que vous dites, c'est... Est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter de ce qui se passe dans le tissu PME, TPE en termes de faillite, en termes de conséquences pour l'emploi ? Je rappelais la montée du chômage, et pour moi, derrière la montée du chômage en France, il y a aussi quand même pas mal de faillites dans le tissu des PME et des TPE.
Ce que nous disent les chefs d'entreprise concernés, c'est, je vais donc donner un autre chiffre de l'enquête, c'est que pour ceux, donc cette moitié qui est concernée, il y en a la moitié, donc un quart du total des TPE-PME françaises, qui disent que c'est un frein à la croissance. Puisque le fait d'avoir des bas salaires, donc d'avoir de plus en plus de salariés payés au SMIC, c'est pas un facteur d'attractivité pour recruter. Et elles sont très concernées par la difficulté de recrutement, comme vous l'avez dit. Et donc, pour elles, c'est un frein à la croissance. Clairement. Oui. Après, sur l'augmentation des défaillances d'entreprise, on est, nous, assez sereins par rapport à cette augmentation. Nous, BPI France, on suit évidemment tous ces chiffres de très près.
Considérez que c'est un rattrapage logique et attendu.
Et oui, l'économie, elle a un principe schumpeterien, c'est-à-dire que vous avez des entreprises qui meurent, des entreprises qui naissent, et dans les causes de mortalité des entreprises, elles sont multiples, et il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, parfois l'absence de performance, soit dans la gestion, soit dans l'innovation, soit des transmissions qui sont trop tard. Enfin, il y a mille et une raison qui fait que cette économie est dynamique et heureusement qu'il y a des créations chaque année. On continue de battre le record de créations d'ailleurs, hein, plus d'un million de créations par an, dont plus de 300 000 entreprises en société. Hein. Il n'y a pas que des auto-entrepreneurs, il ne faudrait pas penser ça. Et donc, naturellement, de l'autre côté, vous avez des défaillances. Si on prend 10 ans, le nombre de créations d'entreprises en société fait x2 quasiment. Le nombre de défaillances n'a pas fait x2. Donc on a bien un tissu économique qui continue de se densifier.
J'avais un deuxième et dernier point là-dessus.
Question de Boissieu, allez-y.
Rapidement. Il n'y a pas que l'augmentation des salaires, il y a tout le débat sur l'extension des schémas de participation et d'intéressement à ce tissu des PME, TPE. Alors, il y a des textes qui ont été pris, ça va pas assez vite. Est-ce que comment accélérer l'élargissement des schémas d'intéressement et de participation à ce tissu de petites entreprises?
Bah c'est pas évident, parce que vous avez un... Évidemment, il faut aller dans ce sens-là. Hein, mais les dirigeants d'entreprise vont vous opposer que leurs salariés aujourd'hui sont trop mobiles. Donc, a priori, justement, la bonne réponse pour les garder, c'est la participation, voire... aller un peu plus loin.
Il y a eu un texte de loi qui a traduit l'accord national interprofessionnel quasiment mot pour mot.
L'idéal, c'est la participation en capital. Mais dans des petites TPE, PME, il n'y a pas de capital. Et donc ça, c'est un levier qui manque.
On est plus heureux dans le salarié.
Dans l'industrie, ça marche très bien.
Il n'y a aucun problème. Ah, le jour où on aura la solution pour dismicardiser. C'était facile à dire.
Alors, mais... elle nous signale quand même qu'il y a aussi un effet de trappe à bas salaire avec les allègements de charges dégressifs. Oui. Et donc ça, un tiers d'entre eux sont confrontés à cette situation. C'est-à-dire, s'ils augmentent trop les salaires, en fait, en proportion, la pénalité sur leur marge est beaucoup plus élevée que l'augmentation de salaire perçue par le salarié.
Autre sujet sur les PME-TPE, vous intéressez à l'intelligence artificielle et leur gourmandise ou leur non-gourmandise pour s'y engouffrer. On avait eu un chiffre récemment, je crois, avec Eurogroup Consulting qui était assez impressionnant sur le fait que la majorité voulait en rester le plus loin possible.
Bah, malheureusement, on confirme ce chiffre.
Ah oui.
C'est-à-dire que si on prend le verre à moitié plein, il n'est plein qu'à 3%. Il y a 3% des TPE-PME, toujours les mêmes, hein, à partir de 1 salarié jusqu'à 250, qui utilisent régulièrement l'intelligence artificielle. 12 occasionnellement, 13% qui pensent le faire un jour mais l'ont toujours pas fait, et donc tout ça, ça fait un total de 28, hein, 3 plus 12 plus 13. Il en reste 72% qui ne veulent pas utiliser.
Ils ne veulent pas. Ils ont peur des conséquences pour l'emploi?
Pas, non. Enfin, du côté de celles qui l'utilisent pas ou de celles qui l'utilisent non. En fait, le premier frein pour celles qui l'utilisent pas, c'est qu'on n'en voit pas les usages.
C'est ça.
Elles n'en voient pas les usages. Et le deuxième frein, c'est qu'elles n'ont pas les compétences. Ouais, à quoi ça sert?
À quoi ça sert?
Et je ne sais pas faire. Ouais. Ce qui est curieux, parce que l'IA, c'est quand même pas si difficile que ça à utiliser.
Ouais. Être aujourd'hui, si on n'est pas trop d'une PME, parfaitement informé des cas d'usage de l'intelligence artificielle, on a entendu parler de ChatGPT, mais c'est un aspect, ChatGPT. Ça n'est pas l'intelligence artificielle dans son ensemble. Allez-y, oui, bien sûr, Nicolas Bouzou, vous pouvez
réagir. Non, parce que moi, je trouve que ces chiffres sont absolument effrayants.
Pas
déjà,
surprenant, je
déjà
trouve,
du en fait. Point de vue macroéconomique, parce que les gisements de croissance ces prochaines années, c'est dans les gains de productivité, et donc c'est dans l'utilisation de ce type de technologie qui présente déjà quand même un certain degré de maturité. Donc si on a simplement 3% des TPE qui s'en servent. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on a des gains de productivité, des gisements qui sont devant nous, hein, du coup, et des gisements de croissance, du coup, qui sont devant nous. Mais enfin, quand même, ce sont des chiffres qui sont absolument pas satisfaisants. Mais je vais même aller plus loin, pardon. Mais en fait, je ne vois pas comment on ne peut pas utiliser l'intelligence artificielle aujourd'hui, puisque cette intelligence artificielle générative, elle est non spécialisée. C'est sa force et sa faiblesse. C'est-à-dire qu'elle peut faire un grand nombre de choses. Et vous voyez, je peux prendre un exemple pratique, pardonnez-moi, mais nous, chez Asterès, par exemple, mon équipe l'utilise pour de l'économétrie, par exemple, pour aller plus loin, parce qu'on ne sait pas tout faire. Il y a des techniques économétriques très récentes que mon équipe ne connaît pas, etc. Donc, on utilise beaucoup, par exemple, pour faire de l'économétrie. Vous voyez, donc, ChatGPT n'a pas été fait pour faire de l'économétrie. Pas du tout. Mais ça fait partie de ces compétences. Donc là, je pense quand même qu'on a un sujet d'évangélisation qui est absolument majeur. Et ces chiffres, quand même, sont vraiment pas bons.
Vous avez vu le rapport à Guyon qui a été.
Ouais, excellent.
Très bon. Voilà, c'est vraiment là pour
tout
évangéliser.
À fait remarquable.
Et qu'on accompagne nous, on l'accompagne dans ses travaux. On est ravis de lui donner des données par rapport à des entreprises qui utilisent déjà l'IA, qui ont été financées par BPI France, pour faire des contrefactuels. Mais ce que dit Nicolas est très important, parce que, en réalité, l'IA génératif, à la différence des précédentes, elle ne demande pas d'être un expert pour l'utiliser. Vu que vous dialoguez avec elle en français, vous lui posez une question, elle vous répond. Alors après, évidemment qu'il y a un apprentissage, il faut prompter correctement, il faut se méfier des biais qu'il peut y avoir dans les réponses. Oui, mais c'est quand même à la portée de tout le monde. Moi, ça me fait penser à la précédente révolution informatique, enfin, une des précédentes, c'est quand Apple a inventé la souris. Je ne sais pas si vous vous souvenez des premiers micro-ordinateurs. Les premiers micro-ordinateurs, ils fonctionnaient avec des systèmes d'exploitation où vous passiez votre temps à faire des codes un peu complexes sur le clavier, vous aviez plein de mots à apprendre, c'était du semi-code. Donc c'était réservé à des initiés. Et puis un jour, vous avez Apple, et c'est son succès, qui est arrivé, qui a dit, non, tout ça, en fait, c'est pour l'exploitation, on va le cacher, l'utilisateur, il va utiliser une petite souris, puis il va cliquer sur des icônes. L'IA générative par rapport aux IA précédentes, quelles qu'elles soient, machine learning, etc., c'est exactement la même chose. Vous n'allez pas coder pour utiliser l'IA, vous allez juste lui parler.
Moi, je pense, je rejoins un mot, je rejoins Nicolas, il y a quand même une sacrée pédagogie à faire ici. Hein. Et je pense que BPI doit jouer un rôle important. Oui. Pas exclusif, mais important.
Essaye, oui.
Je ne sais pas comment vous y prenez concrètement pour faire cette évangélisation ou pédagogie.
Déjà, on publie l'étude.
Hein ?
On publie l'étude et on l'envoie aux chefs d'entreprise.
Bravo, mais alors, est-ce que les pouvoirs publics, toujours eux, est-ce qu'ils ont un rôle à jouer dans cette affaire-là ? Est-ce qu'il y a des incitations à mettre en place au-delà de la pédagogie ? J'en sais rien. Mais on ne peut pas rester à l'écart. Sans ça, on va prendre un train de retard.
Hein. Ah, c'est exactement ce que dit le rapport à Guion. Je ne sais plus comment s'appelle celle qui l'a co-signé avec lui, elle me pardonnera, présidente du conseil d'administration de l'école normale supérieure, argent public et privé, et attention, à Guion, il a cette formule extraordinaire. Vous savez, l'intelligence artificielle, c'est un cheval fougueux. Alors, le cheval fougueux, ça peut vous emmener dans le mur ou ça peut vous emmener très loin, si vous savez le dompter. Je crois que c'est assez bien vu. On a 3 minutes 13. Alors, tous les jours, à 7h45, j'envoie mon espèce de liste fleuve, là, à mes invités. Il y a 25 sujets, alors qu'on aura le temps d'en traiter 3 ou 4. Et je fais ça aussi parce que généralement, il arrive qu'un de mes invités me dise « Ah, j'aime bien là, ton histoire !» Et donc, c'est le dernier sujet de la liste qui a retenu votre attention. Nicolas Bouzou, quand j'écris « Faut-il exploiter du lithium dans l'Allier ?» Vous savez que le groupe minier Imerys a un projet d'exploitation de lithium dans l'Allier, en Auvergne, dans le Massif central, et sur une mine qui existe déjà. Et donc, un débat public s'est ouvert. Et alors là, attention, c'est la foire d'empoigne parce que... les oppositions sont légion.
Oui, alors dans la Commission nationale du débat public, auquel j'ai moi-même été confronté pour défendre des projets d'infrastructure, il n'y a que des gens contre, hein, grosso modo. Hein, c'est quand même l'une des grandes limites de la démocratie participative. Je n'ai jamais vu quelqu'un pour dans n'importe quelle commission de débat public. Ça, c'est première chose, je ferme la parenthèse. Le lithium, c'est la matière première du 21e siècle. C'est celle dont on a besoin pour le numérique, pour la transition écologique.
Mais personne ne va le nier, ça.
Et attends, il y en a en France. Voilà. Non, mais enfin, donc l'enjeu... Il est là. L'enjeu, c'est est-ce qu'on veut bénéficier et faire prospérer cette matière première d'une façon qui sera beaucoup plus écologique qu'ailleurs, de toute façon, parce qu'on fait les choses bien, parce qu'on est très, très réglementé. Et donc, est-ce qu'on veut créer de la richesse, créer des emplois, acquérir un peu de souveraineté sur cette matière première, en défendant des standards écologiques qui seront les meilleurs au monde, est-ce qu'on est prêt à faire ça ? C'est formidable. C'est un projet politique, pour le coup, qui est un projet extraordinaire. Faire de la France un pays minier écologique. Mmh. Voilà, c'est ça ce qui est entre nos mains. Et donc, je pense que nous devons... Parce que je vois bien les difficultés, ça fait peur, etc. Donc, je pense, en tout cas, c'est la façon dont je conçois mon rôle, qu'il est de notre responsabilité de soutenir ces projets, d'en faire la pédagogie, parce que c'est des choses qui sont formidables pour la France. Et si on le fait pas... parce qu'on a peur des activistes qui comprennent rien au sujet, mais qui sont contre tout de toute façon. Ils sont pas pour l'écologie, ils sont contre. Ils sont contre la société dans laquelle on vit. Donc, faut leur résister, parce que ça, c'est vraiment un projet d'intérêt général. Et c'est formidable pour le pays.
Question, un mot, mais on a fini, mais un mot...
Substitue à des importations.
Bah exactement.
Ah oui,
bah oui.
En plus, donc, ça va dans le sens de l'autonomie stratégique, j'allais dire au niveau français et pas seulement au niveau européen. Par contre, j'ai une question dont j'ai pas la réponse, c'est ça va permettre de faire de la substitution aux importations jusqu'à combien, en quelque sorte ? L'ordre de grandeur, je m'en rends pas compte. Est-ce que c'est 5%, 5%, 10% de notre consommation ?
Je pense que c'est cet ordre-là, mais en fait, il faut les voir aussi comme des projets territoriaux. Alors là, dans l'Allier, mais par exemple, dans le nord de la France, on va voir les usines de batteries. Il y a aussi, dans le Grand Est, hein, ce type de projet pour aller alimenter les gigafactories du pays.
Moi, complètement d'accord. Il n'en faut pas une, il en faut 10.
10 mines ?
Mais oui, bien sûr, et pas que du lithium. Tout ce qu'on peut exploiter, on doit redevenir un pays d'exploitation mine.
Vous savez qu'on a du pétrole et du gaz de schiste dans les Hauts-de-Seine.
Oui, ben ça, c'est différent.
Mais bon, il faudrait défoncer Asnières et Bécon-les-Bruyères.
Mais ça, c'est pas écolo. Le lithium, non, c'est écolo. Le lithium, c'est pour faire des batteries.
Bon, eh ben, écoutez, on va suivre l'histoire. Et voilà, en tout cas, j'étais sûr, quand on a annoncé ça il y a 2 ans, 3 ans, que ça allait poser des problèmes. Et là, c'est parti. Là, le débat public, waouh.
Faut pas se laisser impressionner.
Merci Christian de Boissieu, Nicolas Bouzou, Philippe Mutrici. On se retrouve demain, 9h.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.